France Musique.
Mon cœur est un violon, sur les traces des grandes violonistes.
Marina Chiche, France Musique.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de « Mon cœur est un violon ». L'été dernier, nous avions célébré le 100e anniversaire de la naissance de notre chère violoniste française, Ginette Neveu. Cet été, nous allons continuer notre exploration du monde des grands violonistes. Si je vous dis Heifetz, Oistrakh, Menuhin ou même Joachim Sarasate, vous me dites « Bah oui, bien sûr ». Mais si je vous dis Morini, Handel, De Vito, Powell, Neruda, moins familier, n'est-ce pas? Et pourtant, ces femmes-là, à des époques différentes, ont eu des carrières exceptionnelles et ont marqué leur temps. Pourquoi les connaissons-nous si peu? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes représentées dans les livres sur les grands violonistes? Souvent, de rares élus font figure d'exception dans un monde d'hommes. Alors j'ai décidé de vous emmener sur les traces de ces grandes violonistes, de vous les faire entendre et de vous raconter leur parcours de vie. Impossible d'ailleurs de vous les présenter toutes. J'ai dû faire une sélection. On peut dire que ces violonistes du passé ont été des pionnières. Elles ont fait bouger les lignes, changer les mentalités. De nos jours, il semble être une évidence que les femmes jouent du violon, et au plus haut niveau. Mais cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et c'est précisément grâce à ces grandes dames du violon que mes collègues et moi-même, aujourd'hui, nous pouvons être solistes et occuper le devant de la scène. N'oublions pas, nous sommes des nains sur des épaules de géants et de géantes. Alors il est temps de leur rendre justice, de les faire vivre dans nos mémoires et de les faire pleinement entrer dans notre panthéon de violonistes. Vous allez voir, elles sont vibrantes et comme on dit, ça joue.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions la violoniste Erika Morini en 1941 dans la valse, extraite de la fantaisie sur Faust de Gounod, fantaisie écrite par le virtuose espagnol Pablo de Sarasate. Au piano, Max Lehner. Alors oui, inspiration faustienne pour commencer l'aventure. Car longtemps, il semble falloir faire un pacte avec le diable pour devenir un virtuose du violon. Cet imaginaire diabolique se retrouve à travers les époques. De la fameuse sonate « Le tri du diable » de Tartini à l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky. Et cette mythologie est fortement renforcée, voire cultivée, par le phénomène Paganini au début du XIXe siècle. Alors imaginez, une femme jouant du violon est forcément un peu scandaleuse. D'autant que le corps exhibé de la violoniste dérange. Longtemps, on conseille aux femmes de s'en tenir au piano, à la guitare et à la harpe, pour un art d'agrément avec une image plus passive et domestique, des postures modestes. Pour certains, voir une femme jouer du violon serait aussi choquant que de la voir fumer un cigare. Bon, laissons pour l'instant ces affaires à nos amis psychanalystes. Avant d'ouvrir notre chapitre sur le 19e siècle, remontons encore un peu dans le temps. On sait qu'il y avait des femmes violonistes virtuoses dès le 16e siècle, notamment en Italie. La violoniste dont j'ai envie de vous parler maintenant, en ouverture, est d'ailleurs italienne. Elle s'appelle Regina Strinasacchi et elle entre dans l'histoire pour avoir inspiré à Mozart une de ses plus belles sonates pour piano et violon. On est à la fin du XVIIIe siècle, en 1784 à Vienne. Regina a 20 ans, Wolfgang Amadeus 28. Enthousiaste, il parle de la violoniste dans une lettre à son père Léopold. Et Léopold, un grand violoniste lui-même, est aussi conquis par le jeu de la violoniste après l'avoir entendue à Salzbourg. Arriver à convaincre papa Mozart, ce n'était pas une mince affaire. Personne ne peut jouer un adagio avec plus de sentiment et d'une manière plus touchante qu'elle. Tout son cœur et son âme sont dans la mélodie qu'elle joue. Le sublime andante de la sonate Köchel 454 en si bémol majeur pour piano et violon de Mozart. Nous écoutions le pianiste Christoph Liske et la violoniste suisse Haida Stucki en concert en 1977. Haida Stucki est connue comme grande pédagogue notamment. Elle fut la professeure d'Anne-Sophie Mutter, et cela s'entend. Bon, revenons au 19e siècle. Nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Pas moins de 5 femmes violonistes dont je voudrais vous parler. Ça fait beaucoup, mais elles sont toutes extraordinaires. Avant l'ère de l'enregistrement, nous sommes en quelque sorte dans la préhistoire des interprètes. Pour se mettre sur les traces des grandes violonistes du 19e et se faire une idée de leur rayonnement, on peut voir d'une part les œuvres qui leur sont dédiées et d'autre part lire les articles de presse qui leur sont consacrés, les critiques ou autres témoignages de leurs contemporains. Ce sont d'abord deux noms qui ressortent, Teresa Milanolo, puis Vilma Neruda, aussi connue sous le nom de Lady Halle. Notre première pionnière du jour, Teresa Milanolo, née en 1827 dans un village italien, dans une famille pauvre. Très tôt, elle montre des dispositions étonnantes avec le violon et se produit en public. Face au succès éclatant, son père y voit un moyen pour la famille de joindre les deux bouts. Alors, en route vers la France. C'est une histoire folle. Ne pouvant se permettre de payer une calèche, le père et sa fille auraient traversé les Alpes à pied. Teresa suscite l'enthousiasme partout où elle passe. Elle est immédiatement invitée à jouer. Parfois, elle donne 2 concerts par jour, ce qui fait plus de 40 concerts par mois pour une enfant de 10 ans. Assez vite, elle est rejointe sur scène par sa jeune sœur, Maria. Si on a du mal avec les femmes violonistes à l'époque, on est friand du phénomène de prodige. Dans les années 1840, les sœurs Milanolo vont faire des tournées dans toute l'Europe. Elles font fureur. Teresa joue au Conservatoire de Paris et triomphe. Elle suscite l'admiration d'Hector Berlioz. C'est une star. Pour se perfectionner encore, elle va étudier à Bruxelles auprès de Charles de Berlioz, dont elle joue les œuvres.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions la violoniste américaine Maud Powell, dont je vous reparlerai plus tard. C'était un extrait du concerto numéro 7 de Charles de Berlioz. Alors oui, ça gratte. Mais quelle chance d'avoir ces témoignages discographiques. Et c'est une musique que l'on ne joue presque plus, une musique pourtant pleine de charme et d'une redoutable virtuosité. Revenons dans les années 1840 avec les sœurs Milanolo qui fascinent l'Europe. Pour souligner leurs différences de jeu, on leur attribue des surnoms. C'est Mademoiselle Staccato et Mademoiselle Adagio. Mademoiselle Staccato, c'est donc Teresa, l'aînée, la virtuose. Lors de son passage à Vienne, les critiques en font l'égal de Paganini, ce qui agace sérieusement le violoniste belge Henri Vieuxtemps. En 1848, l'histoire devient tragique. Maria la cadette meurt à 16 ans de la coqueluche. Teresa ne s'en remettra jamais vraiment. Elle veut même rentrer dans les ordres. Finalement, elle donnera son dernier concert officiel la veille de son mariage. Elle arrête sa carrière à 30 ans. Teresa Milanolo, notre première pionnière du jour, aura créé un précédent. Après elle, et tout au long du 19e siècle, à chaque apparition d'une nouvelle virtuose, on dira qu'il s'agit de la nouvelle Milanolo. Ce sera le cas justement de notre nouvelle protagoniste, Vilma Neruda, alias Lady Halley. Vilma naît en Bohême en 1838, dans une famille de musiciens. Son père, Josef, est justement bien décidé à surfer sur la vague des prodiges Milanolo et à investir sur sa progéniture. C'est un business qui marche. Mais il est un peu contrarié et surpris quand c'est sa fille Vilma et non son fils Victor qui montre des dispositions exceptionnelles sur le violon. En 1850, Vilma débute à Londres. Elle joue un concerto de Charles de Berlioz et des œuvres d'Henri Vieuxtemps. Sur France Musique, nous écoutions la brillante polonaise de Vieuxtemps par la violoniste Maud Powell. Nous sommes vers 1910. Après Londres, c'est à Moscou que Vilma Neruda fait ses débuts. Henri Vieuxtemps est présent. Si le violoniste belge s'était montré agacé par le phénomène Milanolo, il est cette fois conquis par la jeune Vilma Neruda. À la fin du concert, Vieuxtemps monte sur scène et lui offre un bouquet de fleurs. Elle reçoit une ovation du public. Mais dans ce concert, Vilma partageait l'affiche avec le jeune virtuose polonais Henryk Wieniawski, âgé de 17 ans. Cette fois-ci, c'est lui qui est irrité par cette concurrence féminine. Et il voit rouge. Il veut retourner sur scène et prouver à tous que le meilleur, c'est lui. On essaye de le calmer. Impossible. Il tient en respect avec son archer, un général russe, et manque de le provoquer en duel. Cela aurait pu lui être fatal dans la Russie impériale. Heureusement, Wieniawski s'en sort de justesse. Il devra juste quitter la capitale russe dès le lendemain. Ouf. Peu rancunière, Vilma jouera la musique de Wieniawski toute sa vie. À part cet incident, Vilma Neruda déclenche enthousiasme et respect de la part de ses collègues masculins. Vieux Temps lui dédiera son 6e concerto. Pour lui, elle représente même l'idéal du violon féminin. Et Pablo de Sarasate lui dédie deux pièces, la Jota Navarra et la sensuelle Romance andalouse. Thank you. Nous écoutions Erika Morini dans la romance andalouse de Pablo de Sarasate, une œuvre dédiée à la violoniste Vilma Neruda, notre deuxième pionnière du jour. En plus de Vieux Temps et Sarasate, c'est aussi le grand violoniste allemand d'origine hongroise, grand ami de Brahms, Joseph Joachim, qui tient Vilma en haute estime. Ils jouent d'ailleurs ensemble le double de Bach. À la différence de Teresa Milanolo, Vilma Neruda est la première à réussir la transition d'une carrière d'enfant prodige vers une carrière internationale comme adulte. Vilma Neruda va avoir une vie longue et assez extraordinaire. Elle se marie deux fois. À la mort de son premier mari, elle épouse le pianiste Charles Halley, qui est anobli. Après avoir été Madame Norman Neruda, elle devient ainsi Lady Halley. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'elle passe à la postérité. Comme pour Milanolo, les amateurs de lutherie et de beaux violons connaissent bien le nom de Lady Halley, puisque c'est le surnom d'un magnifique Stradivarius de 1709. Il est courant que l'on nomme les grands violons d'après leur propriétaire interprète. Mais le nom de Lady Halley reste dans l'histoire aussi grâce à Conan Doyle, puisque Sherlock Holmes va l'écouter en concert dans le roman A Study in Scarlet. Sherlock, violoniste amateur, est bluffé par le contrôle d'archet de la violoniste. Et enfin, dans un autre genre, pour les amateurs d'astronomie, Lady Halley, c'est le nom attribué à un cratère sur la planète Vénus. Planète au nom strictement féminin. Peut-être parce que certains disent que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus.
Mon cœur est un violon.
Marina Schiff, France Musique.
Une œuvre que Vilma Neruda, alias Lady Halley, affectionnait particulièrement, était la troisième sonate d'Edvard Grieg. Elle la joua même avec le compositeur. Mais cette œuvre fut inspirée par une autre violoniste célèbre, plus jeune que Vilma, celle que Grieg justement surnomma la fée du violon. Je parle de notre troisième virtuose du jour, l'italienne Teresina Tua. En 1886, Teresina, âgée de 20 ans, rend visite au compositeur norvégien sur sa colline des trolls. Elle lui fait forte impression. Lui qui est bloqué dans sa création déclare vouloir à nouveau écrire grâce à elle. Edvard et Teresina ont sans doute parlé allemand ensemble. Certains disent même que dans le deuxième mouvement, une romance, on y entendrait une déclaration d'amour de Grieg. Avec les paroles. Ich liebe dich, Teresina. Thank you. Sur France Musique, le deuxième mouvement de la sonate en deux mineurs d'Edvard Grieg, joué par le violoniste Fritz Kreisler et le pianiste Sergei Rachmaninov. Une sonate écrite après la visite de la jeune violoniste Teresina Thua chez des compositeurs en Norvège. Teresina, née en 1866 en Italie, fait des débuts de prodige. Comme d'habitude, les parents se mettent à rêver d'en faire une nouvelle sensation à la Milanolo. Ils amènent la petite Teresa à étudier à Paris avec Lambert Massard, le futur professeur de Fritz Kreisler. Elle fait des débuts fracassants et reçoit des critiques dithyrambiques dans toute l'Europe. L'histoire devient assez vite tragique. Teresina a 18 ans quand sa mère, qui l'accompagnait partout, se suicide. 2 ans plus tard, la violoniste reprend courageusement ses concerts. Elle fait enfin une grande tournée aux États-Unis. C'est un triomphe auprès du public. Mais dans la presse, on dénigre son succès en ne parlant que de ses bijoux, de ses robes, de ses bras dénudés qui attisent le désir autant qu'ils suscitent la réprobation. De retour, Teresina est fatiguée. Elle s'installe en Italie, se marie et donne naissance à des jumeaux. Mais le bonheur est de courte durée. Ses jumeaux meurent avant l'âge de 4 ans. Une fois de plus, elle reprend courageusement le chemin de la scène. Elle a maintenant 29 ans. Elle fait une tournée en Russie et joue pour l'occasion avec un tout jeune pianiste russe, un certain Sergei Rachmaninov. Rachmaninov, qui se trouve accompagnateur, est jaloux comme un pou. Si la dame accapare les applaudissements, selon lui, c'est parce qu'elle minaude et joue de sa beauté. Dur, dur. Est-ce pour cela que Teresina Thua aura besoin de préciser quelques années plus tard, dans une conférence en Italie, que la culture musicale n'implique chez la femme aucune diminution de ses qualités morales? À la fin de sa vie, après avoir enseigné à Milan puis Rome, elle lègue sa collection de bijoux et ses instruments et se retire dans un couvent où elle restera jusqu'à sa mort à 90 ans passés. Décidément, ce n'est pas encore gagné pour les femmes et le violon. Mais ce serait sans compter sur nos deux dernières héroïnes du jour, deux ferventes avocates de la cause féminine, la Française Camille Urso et l'Américaine Maud Powell.
Thank you.
Le charme et le rubato extraordinaire dans la mazurka de Zasitsky par la violoniste américaine Maud Powell. Avec Camille Urso et Maud Powell, on entre dans le vif du sujet. Il s'agit pour les femmes d'accès à l'enseignement artistique supérieur et de professionnalisation. La Française Camille Urso, née en 1842 à Nantes, va faire bouger les lignes en France et aux États-Unis. Je vous avais raconté l'année dernière son entrée triomphale au Conservatoire de Paris en 1851. En fait, l'histoire est encore un peu plus compliquée que cela. Car il y avait déjà eu une femme qui avait étudié au conservatoire et obtenu un premier prix. C'était la citoyenne Félicité Lebrun en 1799. Mais allez savoir pourquoi, au début du 19e siècle, le règlement était devenu explicite. Le violon, ce n'était plus que pour les garçons. Aux États-Unis, sa carrière va être lancée dès ses 10 ans. Urso va être une des premières à y jouer le concerto de Mendelssohn et surtout le concerto de Beethoven. Malheureusement, nous n'avons pas de disque de Camille Urso. En 1893, elle a 50 ans. Elle s'exprime lors d'une conférence sur les femmes et la musique. Elle appelle, je cite, « ses sœurs à agiter la question et à affirmer leurs droits. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes dans les orchestres ? Je connais d'avance l'objection qui sera faite à ma proposition, dit-elle, mais qui va s'occuper des tâches ménagères à la maison ?» D'ailleurs, Urso conseilla à la jeune Maud Powell, âgée de 25 ans, de ne surtout jamais se marier ni d'avoir d'enfants. C'est incompatible. Pourtant, Maud se mariera 10 ans plus tard avec l'homme qui deviendra son manager.
Thank you.
La sublime, humoresque de Dvorak par la violoniste américaine Maud Powell. Maud a dû lutter toute sa vie contre un double préjugé. Le fait d'être une femme et en plus une américaine. Pourtant, après des débuts de prodige aux États-Unis, elle a fait ses études en Europe auprès des maîtres comme Heinrich Radieck à Leipzig, Charles Dankla à Paris ou Joseph Joachim à Berlin. À son retour aux États-Unis, heureusement, le chef d'orchestre du New York Philharmonic, Theodore Thomas, la soutient. Mais elle devra se battre pour s'imposer auprès de chefs comme Gustav Mahler. Il faut se rappeler que les femmes n'ont pas le droit de vote à cette époque. Et Maud est très sensible à ces questions. Ses parents ont une conscience politique aiguë. Sa mère est une vraie suffragette. Maud a reçu une éducation libérale et exhorte ses consoeurs à se consacrer sérieusement à l'étude du violon. En vraie pionnière, elle défend des musiques de compositrices et de compositeurs afro-américains comme Coleridge Taylor. Pionnière pour les femmes, mais aussi pour la musique classique. Elle sillonne les États-Unis et amène la musique dans les foyers grâce à ses enregistrements. C'est la première instrumentiste à enregistrer pour le label Red Seal de la célèbre compagnie de disques Victor. Pour prendre la mesure de sa popularité, il faut imaginer qu'on achetait des gramophones rien que pour écouter Maud Powell chez soi. Elle enregistre d'ailleurs du répertoire populaire qui touche le cœur des Américains. Il était une fois dans l'Ouest.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions Maud Powell dans des chants populaires américains. Au tout début du XXe siècle, le label Victor fait la pub de Maud Powell ainsi. Le bras d'un homme, le cœur d'une femme, la tête d'un artiste. Maud Powell va aussi beaucoup œuvrer dans la création des œuvres contemporaines. Elle fait tout pour faire rentrer au répertoire et imposer des œuvres fraîchement écrites, comme le concerto de Tchaïkovski ou de Sibelius. Malheureusement, on peut dire qu'elle joue de malchance. Mauvais timing, comme on dit. Elle meurt prématurément en 1920, à 52 ans, d'une deuxième crise cardiaque, épuisée par des tournées éreintantes. On est quelques mois avant l'adoption de l'amendement qui donne enfin le droit de vote pour les femmes aux États-Unis. À cause des avancées rapides dans la technologie, beaucoup de ces enregistrements ne seront pas conservés. Il nous reste finalement peu de témoignages de ces interprétations, hormis des miniatures ou des œuvres tronquées, comme par exemple le final du concerto de Mendelssohn. Dans le final du concerto de Mendelssohn, nous écoutions la violoniste américaine Maud Powell. C'est une trace précieuse d'une vraie pionnière, morte il y a 100 ans, le violon dans les mains. La légende raconte même que lors de sa première crise cardiaque sur scène, elle était fière d'avoir réussi à aller au bout du morceau qu'elle était en train de jouer avant de s'effondrer. Une grande dame du violon qui aura touché les cœurs de ses auditeurs et fait avancer la cause de la musique classique et des femmes violonistes. À la fin du 19e siècle, grâce à ses pionnières, on voit des jeunes femmes avec des boîtes de violon partout dans les rues des capitales européennes. En Russie, il faudra attendre 1906 pour voir la première violoniste femme entrer au Conservatoire impérial de Saint-Pétersbourg dans la classe du grand Leopold Auer. Mais cela, je vous le raconte dans le prochain épisode. Merci à toute l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Valentin Carpentier et Antoine Espel. Cet épisode est disponible à la réécoute sur le site de France Musique. Je vous dis à dimanche prochain, 17h.
Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.